Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, nous allons à présent parler de, du sida, les risques de transmission du VIH-sida en période des maquis. La période des maquis semble propice à la, être propice à la transmission du VIH-sida chez les finalistes du secondaire qui sont actuellement en maquis, en train de préparer les examens d'État. D'ailleurs, les maquis, ça a été interdit, ce phénomène a été interdit, mais il y a certains, il y a des maquis organisés, par exemple par des écoles, tout ça, et les enfants se retrouvent ou contrôlés par les parents. Alors, les élèves parfois se retrouvent seuls, sans parents, ou sans encadrement. En conséquence, beaucoup de filles et garçons succombent à la tentation d'avoir des rapports sexuels parfois non protégés. Alors, quelles sont les précautions que les parents doivent prendre pour protéger les enfants des maladies sexuellement transmissibles et les jeunes eux-mêmes comment doivent-ils faire pour se prévenir contre le sida? Alors, pour échanger, avoir de plus amples détails par rapport à ce thème, nous recevons M. Trésor Cassia. Il est le coordonnateur de l'ONG RACOJ, le réseau des associations congolaises des jeunes contre le sida. Bonjour Trésor.
Bonjour.
Alors, nous parlons de comment prévenir les risques du VIH-sida en période des maquis. Qu'est-ce qui doit être fait? D'abord, quel comportement les jeunes eux-mêmes doivent adopter et quel est le rôle des parents et des encadreurs au niveau des écoles?
Merci. Je pense que c'est un sujet très important parce que vous savez effectivement que en période de maquis, les jeunes bénéficient d'une certaine liberté. Parce qu'en ce moment-là, ils sont soustraits au contrôle parental.
Oui.
Ils sont seuls entre eux. Évidemment, c'est l'occasion généralement de se livrer à beaucoup d'excès. Et il y a l'influence des pères, il y a la consommation de l'alcool, de la drogue aussi, parfois en ce moment-là. Et bien évidemment, avec une incidence sur le comportement sexuel à risque. Ben, la première chose qu'on devrait faire, d'abord le parent au niveau de famille avant de s'ils ont décidé de laisser leur enfant aller dans les maquis, ils doivent pouvoir entamer ou mener un dialogue sincère et transparent avec leurs enfants. De nos jours, la question de sexualité ne devrait plus être un tabou. Les parents doivent clairement aborder la question avec les enfants pour leur faire comprendre les conséquences de comportements sexuels à risque. Au besoin, les parents pourraient même aller jusqu'à proposer l'utilisation correcte et systématique du préservatif, le cas échéant. Je pense que ça, c'est la première chose, la première mesure concrète qu'il faut prendre.
Mais vous êtes sûr que les parents peuvent dire ça à leurs enfants?
Mais je pense qu'à de nos jours, parce que vous savez bien que le VIH est une réalité, hein, c'est une réalité, ça touche particulièrement le jeune. Mm-hmm. Les jeunes vont aller au maquis. Au maquis, ils ne seront plus sous le contrôle des parents et même pas sous le contrôle de leur éducateur. Ils seront entre eux jeunes, ils ont leur agenda, ils ont leur fréquentation, ils ont leur penchant. En ce moment-là, ils sont un peu à la merci de tous les dangers. Je pense que la première chose, d'abord, c'est que les parents puissent sensibiliser eux-mêmes leurs enfants. Mmh. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a effectivement aussi la responsabilité des jeunes eux-mêmes qui doivent d'abord prendre conscience de ce risque qui existe, c'est un risque réel, parce qu'il y a certainement le VIH, parce que c'est notre sujet du jour, mais il n'y a pas que ça. Il y a des jeunes qui sortent de maquis avec des grossesses. Il y en a qui ne peuvent plus poursuivre leurs études parce que, notamment les jeunes filles, parce que pendant la période de maquis, elle a adopté des comportements à risque, elle a contracté une grossesse.
Mais souvent, c'est entre les jeunes où il y a même des personnes adultes qui viennent chercher les filles.
Absolument.
Dans ces maquis.
Il y a effectivement le jeune entre eux, mais il y a également les personnes extérieures. Parce que vous savez, ce n'est pas seulement le fait de la liberté qui renforce la vulnérabilité des jeunes, mais c'est aussi la pauvreté. C'est aussi la pauvreté. Parce que vous savez, les épreuves d'examen d'État
approchent à
cette approche-là, il y a des besoins d'argent.
Oui.
Et les enfants au maquis, il y en a qui arrivent au maquis, mais sans grands moyens. Au tout début, ils peuvent avoir de la ration alimentaire. Après un certain temps, ils n'en ont plus.
Ils n'en ont plus.
En ce moment-là, évidemment, ils sont à la merci des prédateurs, si je peux me permettre.
Des filles, vous parlez particulièrement des filles.
Particulièrement des filles, mais pas seulement. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a le phénomène des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Ça veut dire qu'il y a, effectivement, les garçons n'échappent pas à cela. Mmh. Un garçon qui va au maquis, qui voit un monsieur qui lui propose de le prendre en charge, au besoin de supporter tous les frais qui pourraient couvrir ses épreuves d'examen d'État, et, lui acheter un pantalon, une belle paire de baskets, et qui pourrait lui permettre de se prévaloir, de se targuer devant ses collègues. Mmh. Évidemment, c'est une perspective alléchante. Mmh. Et donc, ça peut effectivement influencer les jeunes. Donc, il y a certainement la vulnérabilité des jeunes filles est un peu plus accrue, mais de manière générale, la période de maquis accroît fortement la vulnérabilité des jeunes. J'ai parlé des parents, j'ai parlé des jeunes eux-mêmes, mais il y a aussi l'État. Il y a aussi l'État, notamment ici, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Je pense qu'il y a un curricula qui a été introduit dans le système éducatif, dans le programme de l'enseignement primaire et secondaire, pour permettre aux adolescents, aux jeunes notamment, d'être informés sur les questions de sexualité, particulièrement celles qui touchent le VIH et les infections sexuellement transmissibles.
Mais est-ce qu'il y a des pères éducateurs parmi les jeunes à l'école, les finalistes, est-ce que Racoche travaille par exemple, pour que chaque année, parmi les jeunes finalistes, qu'il y ait des pères éducateurs.
Vous savez, depuis l'an 2007, le RACOCH travaille avec l'UNICEF dans le cadre du projet Participation au développement des adolescents. Il ne s'agit uniquement de la ville de Kinshasa. Le RACOCH a formé un peu plus de 3000 pères éducateurs. Et ces pères éducateurs qui ont été appuyés pour mener des activités de démultiplication sur le terrain ont à leur tour formé plus de 300 000 de 2007 en 2012 à 2012. Ces pères éducateurs ont touché plus de 300 000 autres pères. Mais qu'est-ce que cela représente par rapport à la population? Je parle d'abord de la ville de Kinshasa. À Kinshasa, nous sommes déjà à plus de 10 millions d'habitants. Et si l'on doit évaluer la proportion des personnes concernées par ces problèmes, on pourrait peut-être aller dans les 30%. Imaginez 30% de 10 millions de personnes, 300 000 personnes.
Donc cela veut dire que je ne peux pas tout faire, quoi. Donc il y a beaucoup de besoins.
Absolument pas. Le RACOCH ne peut pas tout faire d'abord parce qu'il y a beaucoup de besoins. Parce que ses moyens sont limités, parce qu'au moment où je vous parle, le RACOCH est en train de se démener comme un diable dans un bénitier pour trouver d'autres partenaires qui pourront l'aider à poursuivre cette action de formation des pères éducateurs.
Mais est-ce que vous avez par exemple pensé à aller dans ces maquis pour parler aux jeunes?
Nous y avons pensé parce que vous savez, le RACOCH c'est un réseau des associations. Au sein du RACOCH, il y a plusieurs associations, et à Kinshasa, il y en a plus de 300 qui ont déjà des programmes de sensibilisation à travers les écoles. Ici, je me réfère d'ailleurs un clin d'œil particulier à l'association IMAE de notre ami Serge Bondedi, qui fait un travail remarquable.
IMAE, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est l'association des jeunes, c'est en anglais, pour l'éducation.
Okay.
Ils travaillent particulièrement à travers les écoles et les universités. C'est l'une des associations phares du RACOCH dans la ville de Kinshasa qui fait un travail remarquable, même s'il n'a pas d'appui. Mais il y en a plusieurs maintenant. Nous, ce que nous allons faire, le RACOCH, c'est que trouver les pères éducateurs extérieurs, ça veut dire trouver les chefs des maquis, parler avec eux, leur doter, selon les moyens dont nous disposons et les temps qui nous est imparti.
Donc dans ces maquis, il y a toujours un chef, hein?
Oui, toujours un chef. Moi-même, okay. Je suis chef de maquis.
Ok.
Oui, il y a toujours un chef, un président, un coordonnateur, que sais-je encore. Bref, un chef de maquis qui, effectivement, se charge de coacher ou, c'est pas moi, de diriger tous ses collègues. Oui. Il faut travailler avec ces chefs-là, lui faire comprendre et intégrer les causeries éducatives au sein des maquis. Ils ont des moments de rencontre. Oui, absolument.
Ils sont tous ensemble.
Oui, ils sont tous ensemble. Ils discutent sur la vie de leur maquis. Il y a certains maquis. Le mien s'appelait, par exemple, Sand City. Et chaque maquis peut choisir son nom, son président, et évidemment son trésorier. Et pendant les causeries de maquis, aborder les questions de sexualité, sensibiliser les pères, leur expliquer les dangers qui les guettent. Parce que le sida, comme le dirait la Bible, est comme un lion rugissant. cherchant qui dévorera. Mmh. Et donc je pense que...
Voilà. Comment prévenir les risques de transmission du VIH-Sida en période de maquis? Jean Calvin Yoka nous appelle de Kananga, Modeste Mwamba se trouve également à Kananga, et Patrick Tchongo de Kindu, des questions et préoccupations, appelez au 081-890-63-94.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Comment prévenir les risques de transmission du VIH-Sida en période de maquis? Jean Calvin Yoka de Kananga, bonjour.
Bonjour, Jolene Kachama.
Quelle est votre question, Jean?
Par rapport à l'exposé de l'invité,
oui.
Je m'aurais proposé quelque chose.
Oui, allez-y.
Du fait qu'ici, au Kasaï occidental, la période de maquis ne manque jamais.
Mmh.
Nous avons constaté avec amer que plusieurs filles s'attrapent de la maladie sida parce qu'il manque de moyens et consorts.
Oui.
Mais par rapport à l'exposé de l'invité, j'aimerais lui demander qu'il puisse nous dire, car il est chargé de l'ONGD, faudra-t-il permettre cette période de maquis, oui ou non? S'il faut recourir aussi à des institutions qui organisent ce maquis, qu'est-ce qu'il peut leur conseiller de ne plus faire, de préparer cette période par rapport au service que nous sommes en train de passer les manques le manque de protection. Faudra-t-il séparer les filles à part ou les mettre ensemble dans celui qui va les protéger?
Bien, merci Jean Calvin. Modeste Mwamba, vous êtes à Kananga aussi, bonjour.
Bonjour Jodin Kachama, bonjour tous les auditeurs de Radio Kapi, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Bon, j'ai pas une question, mais je voudrais un peu donner un apport au cas où qui est vraiment en train d'être bâti. Vous savez, ici à Kananga, nous d'abord, avant d'être président, nous avions été finalistes du secondaire. Mais nous avons constaté que pendant toute période de maquis, soit pendant cette année scolaire, les élèves aux environs du mois de février, mars, voire avril, les élèves finalistes se préparent chaque fois pour entrer en maquis, afin de se préparer. Donc moi, j'aurais souhaité qu'on puisse d'abord faire une définition par rapport à ces termes-là. Les maquis, c'est comme un endroit où les gens se préparent pour aller vraiment affronter...
Alors, Modeste, soyez bref. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle est la question que vous voulez adresser à l'invité? Soyez bref, bon, s'il vous plaît.
Je voudrais un peu qu'il puisse nous dire, parce que chaque chose a ses inconvénients et ses avantages.
Oui.
Quels sont les avantages du maquis et aussi les inconvénients le plus remarqué du phénomène maquis?
Parce merci. Merci, Modeste.
Ça a beaucoup de confusion. Lorsque les élèves veulent aller au maquis, ça pose un problème dans la famille. Des fois, le papa, la maman ne s'entendent pas. Il y a un problème de déséquilibre au sein de la famille. Alors, par rapport à cela, juste nous passer un volet d'avantages aussi des inconvénients.
Merci bien. Merci bien, Modeste. Patrick Tchongo, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, je ne suis pas à Kindu, à Butembo.
Vous êtes plutôt à Butembo, Tati. Patrick, on vous écoute.
Je voulais poser à notre invité deux questions. Je voulais savoir comment s'organiser les maquis aux années 67 jusqu'à 80.
Bon, aujourd'hui, Patrick, on ne parle pas de l'organisation des maquis, tout ça, mais on parle des risques de transmission du VIH-Sida pendant cette période des maquis. Donc, on va se focaliser sur cela. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça?
Il y a encore une deuxième question que je voulais poser.
Allez-y rapidement.
Est-ce que les paras peuvent faire pour épargner leurs enfants à tous ces risques-là, parce que on ne sait pas si pour réussir aux examens d'État, il faut aller au maquis ou quoi. Et c'est ça que je voulais savoir. Quels sont les mécanismes que les parents peuvent utiliser pour épargner leurs enfants à tous ces risques-là qui arrivent au maquis, les
tâches, Merci Patrick Deboutembo. Alors, Monsieur Trésor, vous avez suivi. Le premier intervenant, Jean Yoka, dit, faut-il autoriser les maquis ou pas? Alors, quel conseil donner aux maquisards? Faut-il que les garçons et les filles soient ensemble ou il faut les séparer? Voilà, autant de préoccupations.
Oui, la question est pertinente. Mais comme vous le savez, en ce moment aussi, certains jeunes sont déjà au maquis. Et évidemment, si je répondrai à cette question de manière prospective, en ayant un regard tourné vers l'avenir. Le maquis a des avantages et a des inconvénients. Moi, j'habite par exemple la commune de Kimanté, qui est aux trois quarts privée d'électricité. Et dont les conditions de vie et d'études sont assez difficiles. Effectivement, pour moi, et comme les écoles que nous fréquentions étaient assez loin de nos milieux d'habitation, le maquis peut permettre le rapprochement de l'élève avec son école. Le maquis peut permettre à l'élève d'être en contact permanent avec ses pairs et donc de mieux préparer ses études, ses épreuves, parce que vous savez, on a dit maquis. Maquis, dans la guerre, quand on dit que des soldats sont au maquis, ça veut dire qu'ils se préparent ils sont en retrait pour mieux aborder la guerre, les épreuves étant considérées comme une sorte de guerre. Les avantages sont celles-là, mais les avantages sont aussi que pendant la période de maquis, il y a une plus grande concentration pour les maquis qui sont sérieux. Mais maintenant, il y a tous ces inconvénients dont nous avions déjà parlé plus haut. Faut-il autoriser, faut-il permettre? Je pense qu'il faudrait d'abord se baser sur les évidences. Nous devrons d'abord évaluer si les maquis ont contribué ou pas à la propagation du VIH. Il faut une étude pour attester cela.
Pour déterminer, oui.
Pour déterminer cela. À ce stade, il m'est difficile, effectivement, de dire formellement si oui ou non.
Mais au moins, il y a des risques.
C'est que
parce que les jeunes, ça donne un comportement irresponsable.
Le maquis accroît fortement. Oui. La vulnérabilité des jeunes, ça c'est sûr.
Okay.
Ça c'est sûr. Mmh. Maintenant, quant à l'ampleur ou que peut avoir ces problèmes-là, je ne saurais donner des détails précis. Maintenant, s'il faut autoriser ou permettre, ça évidemment, je viens de.
Nous savons que le gouvernement avait interdit carrément ces phénomènes de maquis, mais malgré ça, ça continue à exister.
Bon, écoutez, le gouvernement avait autorisé,
nous on n'est pas là, c'est pas ça. Notre question.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir aujourd'hui les SIDA pendant
bon,
cette période de maquis?
Moi, je pense que, comme je le disais tantôt, j'avais parlé des parents. J'ai parlé aussi de l'État. D'abord, je crois que les parents, hormis le fait qu'ils doivent amorcer des discussions avec les enfants, de dialogue.
Qu'est-ce qu'ils doivent dire exactement à leurs enfants?
Oh, ils doivent dire à leurs enfants que, écoutez, le sida existe, est une réalité et frappe et touche particulièrement les jeunes. Le sida s'attrape exactement ou essentiellement par la voie sexuelle. Donc, si tu vas au maquis, c'est essentiellement pour étudier. Mais si tu vas au maquis et que tu en profites pour te livrer à tous tes penchants, notamment d'ordre sexuel, voilà, tu risques de contracter le VIH-SIDA. Ce que je te suggère, c'est de te concentrer pendant la période de maquis à ton objectif, c'est-à-dire étudier, te préparer. Mais si, mais dans les pires des cas, je sais que c'est pas très aisé pour le parent de le dire, il faut recommander l'utilisation correcte et systématique du préservatif. Mais les parents ne doivent pas s'arrêter là. Moi, je connais des parents qui ont envoyé leurs enfants au maquis et qui ne se sont pas donné la peine pendant toute la période de maquis, les deux mois, de faire de visites à leurs enfants. Il faudrait que les parents, mais également les responsables des écoles, puissent de temps à autre
les surprendre le soir, par exemple, samedi soir.
Pourquoi pas, surtout ouais. Pourquoi pas? Mais parce que je te disais tantôt, il n'y a pas que les gens extérieurs. La période de maquis accroît la vulnérabilité des élèves, même face à leurs propres instituteurs, leurs propres enseignants, leurs propres préfets.
Il y a des enseignants qui vont chercher les filles.
Évidemment. Hein. Ouais. Moi, ce que je voudrais demander aux jeunes qui nous suivent en ces moments, d'abord, nonobstant le fait qu'ils doivent comprendre que le sida existe, de s'organiser. Le racouche est implanté à travers tout le pays. Nous avons, grâce notamment à l'appui de l'UNICEF et la collaboration du ministère de la Jeunesse, à notre disposition des outils d'information qui peuvent permettre aux jeunes de s'informer sur la question de sexualité. Partout où ils sont, ils peuvent prendre contact avec nous. Nous allons les aider à avoir des informations, à avoir des documents à mettre à la disposition de leur père. Et éventuellement aussi à avoir leur capacité renforcée pour pouvoir mieux faire ce travail-là. Et de ne pas hésiter de nous signaler sur tous les cas d'abus. Ça veut dire surtout lorsqu'il s'agit d'un enseignant ou une autorité de l'école.
Ou le préfet qui fait la cour.
Qui fait la cour à un enfant, à une jeune fille. Je pense que les élèves doivent s'organiser pour pouvoir dénoncer cela. Ils doivent nous le dire. Nous sommes en contact avec les responsables, les autorités. Nous allons faire rapport et je pense que des sanctions seront prononcées contre ces personnes-là.
Vous êtes jeune? Vous êtes curieux? Nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, Actu People, emploi, environnement. Nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, point de vue et portrait de jeune. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le feu de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Comment prévenir les risques de transmission du VIH-Sida en période de maquis? Yano Sungu, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Yano, bonjour. Bien, désolé, Yano n'est plus en ligne. Alors, comment prévenir les risques de transmission en période des maquis? Vous avez dit, il y a une part des responsabilités, la première part des responsabilités, il revient aux parents.
Aux parents.
Ils doivent préparer leurs enfants.
Les jeunes eux-mêmes.
Eux-mêmes.
Les autorités eux-mêmes, scolaires.
Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les jeunes?
Ils doivent d'abord prendre conscience que le sida est un problème qui les concerne particulièrement.
Okay.
Et adopter les comportements responsables pour pouvoir se prémunir des infections sexuellement transmissibles et du VIH. Ça, c'est ce que doivent faire les jeunes. Mmh. Ils doivent également s'organiser pour pouvoir donner l'information à ceux de leurs pères qui n'en ont pas. Et pouvoir renforcer leurs compétences, parce que vous savez, entre avoir l'information et avoir et pouvoir traduire ces informations en termes de comportement, il y a tout au monde. Il y a beaucoup de jeunes, des enquêtes ont déjà démontré, qui savent que le sida existe, qui savent que le sida se transmet de telle ou telle manière, mais quand même qui continuent à adopter des comportements irresponsables. Ça veut dire que c'est un manque de compétences. Parfois c'est l'influence des pères, parfois c'est l'incapacité de communiquer efficacement, l'incapacité de résister à la pression, l'incapacité de résoudre des problèmes. L'ensemble de ces problèmes, on les appelle les compétences de vie courante. Les jeunes ont besoin d'avoir des compétences psychosociales qui leur permettent d'adopter des comportements responsables vis-à-vis d'eux-mêmes, mais également de leur rapport avec les autres. C'est ce que fait exactement le RACOCH avec l'UNICEF. Donc,
jeunes... C'est ce que vous dites, que les jeunes sont facilement influençables.
Oui.
Vous pouvez voir une jeune fille à la maison, elle était bien dès qu'elle va au maquis.
C'est un problème
elle a
majeur.
Des copines qui ont...
Et c'est justement ça, ces facteurs-là qui fait aussi que le maquis devient une période très, très, très critique, parce que les jeunes n'ont d'autre contact avec leur père, et en permanence. Et donc, facilement, un jeune qui ne fait pas telle ou telle autre chose peut le faire, tout simplement parce que ses amis et ses collègues, parce que vous savez, on a avoir de rapports sexuels dans certains milieux, dans certains groupes, c'est comme un effet des modes. Le fait de ne pas avoir de rapports sexuels...
On est vieux jeu, quoi. On est considéré vieux, comme
bon,
vieux jeu.
Comme on dit, Yuma, Azanyama, tout ce que vous voulez. Ouais. Les jeunes doivent comprendre que le fait d'avoir des rapports sexuels ne représente pas une valeur, forcément. Hein? Ça ne représente pas une valeur. Et le fait de ne pas avoir... de rapport sexuel, ça veut pas dire qu'on est rétrograde, qu'on est vieux jeu, absolument pas. Je pense que dans la vie, il y a des étapes. Hein? Chaque chose, comme le dit Ecclésiaste, a son temps. Il y a un temps pour tout. Je pense que le maquis, l'objectif principal, c'est d'abord de se préparer pour les épreuves d'examen d'état. Et il faudrait garder l'esprit focalisé sur cet objectif-là.
C'est pas l'occasion d'aller en boîte, hein?
Non,
d'aller danser ou dans des concerts.
Absolument pas.
Ouais.
Absolument pas. Je pense que les jeunes doivent intégrer cela. Maintenant aussi, les autorités. D'abord, les autorités doivent veiller à ce que je fais un plaidoyer particulier auprès du ministre Makère Mwangu
de
l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, et mais également aussi pour la ville de Kinshasa, de maman Thérèse Olenga, qui doivent veiller justement à ce que cette période de maquis soit effectivement une période qui permette aux jeunes de mieux aborder, et qui ne les jette pas à la merci des prédateurs. Ils doivent mettre en place des mécanismes de protection pour faire en sorte que les jeunes qui vont au maquis puissent bénéficier au maximum de cette période-là. Et poursuivre, punir notamment les autorités scolaires qui essaient d'abuser les enfants et qui profitent de leur vulnérabilité pendant la période des maquis. Et cela va évidemment au-delà, en punissant également les adultes, les aînés, les parents qui profitent de cette période pour abuser des pauvres jeunes gens qui vont...
qui leur proposent de l'argent.
Mais évidemment, qui proposent de l'argent pour les soudoyer et les inciter à avoir des rapports sexuels généralement non protégés.
Bien. Merci Trésor Cassian. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'ONG. C'est une plateforme.
C'est une plateforme, c'est un réseau national de plusieurs organisations de jeunes implantées.
Combien en total, vous avez dit?
À travers le pays, un peu plus d'un millier. Un peu plus. Mais vous savez, les organisations de jeunes, il y a des clubs, il y a des staffs, ce ne sont pas forcément des organisations très, très structurées, mais en tout cas, le RACOJ a plus de 1000 organisations membres. Cela a été illustré lors de la marche blanche de la jeunesse où on a vu des jeunes marcher en tenue blanche simultanément à travers tout le pays. Ça, c'est une grande première et jusqu'à ces jours, ça n'a jamais
alors existé. Ici, peut-être qu'il y a d'autres jeunes qui voudraient rejoindre votre mouvement. Un numéro de contact par lequel
vous pouvez ceux qui veulent rejoindre le RACOJ doivent appeler au 09. 98 ou 98, 09 98, 866, 346. Je répète, 09 98, 866, 346. Ou écrire par email racoj.cn@gmail.com. racoj.cn@gmail.com.
Bien.
Voilà.
Trésor Cassian, merci.
Le RACOJ a également un site internet, www.racoj.org.
Bien.
Voilà.
Merci, Trésor Cassian. À la prochaine.
C'est moi qui vous remercie. Merci.
Au capitaine.